Alors, pour terminer l'émission en beauté, nous recevons cette semaine un homme qui est très impliqué dans le monde automobile. Il est le président de l'Association de promotion des usages de la quasi-turbine. Il s'agit de M. Jean Rémillard. M. Rémillard, bonjour.
Bonjour, M. Charrette.
Parlez-nous d'abord, au départ, qu'est-ce que la quasi-turbine? Pour les gens qui entendent le terme pour la première fois, évidemment, c'est une mécanique qui a été développée, je pense, par un monsieur Saint-Hilaire, ici au Québec.
Le docteur Gilles Saint-Hilaire, c'est un docteur en physique,
okay,
qui a mis au point un nouveau principe moteur. En fait, plusieurs comparent la quasi-turbine au moteur rotatif Wankel ou
RX-7, RX-8. Exact, qui a été popularisé par Mazda. Oui.
Exactement, mais Citroën aussi a beaucoup travaillé là-dessus. Et c'est une grosse erreur, en fait, parce que le Wankel a des gros problèmes, on n'insistera pas sur les problèmes, là, bon, et il est très limité. Ça se résume dans le fait que Mazda, c'est un surconsommateur comparé au moteur à piston.
Oui, effectivement. Oui. Puis c'est un surconsommateur d'huile et d'essence.
Absolument.
Dans les deux cas, oui.
Tandis que la quasi-turbine est sous-consommatrice par rapport au moteur à piston. Donc, elle va avoir à peu près un gain de 40% en économie avec la quasi-turbine.
OK.
Et ce qu'il y a, c'est que la quasi-turbine, c'est un moteur rotatif. Il n'y a pas de piston là-dedans, là.
Ouais.
Et le centre, il est creux. Au milieu, là, on peut mettre ce qu'on veut.
Ah.
Tout le travail se fait à la périphérie.
OK.
C'est-à-dire, en termes techniques, on appelle ça un moteur à force tangentielle. Tangentielle, c'est une tangente au stator, là, à la partie plus ou moins courbe.
Oui, 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 exact.
Donc, tandis que le Wankel est bi. Puis ça a pris des années aux ingénieurs et aux physiciens à comprendre comment fonctionnait le Wankel. Parce qu'il y a une force qui va vers le centre, une force radiale, et une force tangentielle. La force tangentielle, ils l'ont découverte longtemps après l'invention du moteur.
Ah, bon.
Alors, nous autres, on a un moteur qui promet de vraiment révolutionner tout le monde des moteurs à piston. En fait, normalement, là, d'après certains scientifiques et experts, dans 20 ou 30 ans, on ne parlera plus de moteurs à piston, on va parler que de quasi-turbine.
Bon, donc là, on est des précurseurs à ce chapitre-là. Là,
absolument.
Okay.
C'est-à-dire que le Québec, dans le domaine des moteurs d'auto, est vraiment précurseur. Vous pensez au moteur roue du docteur Couture.
Oui.
Hein? C'est vraiment, aujourd'hui, là, c'est le modèle qui essaye d'atteindre les Toyota, etc., pour même l'armée américaine veut avoir des moteurs roues.
Effectivement.
Ça a été inventé au Québec.
Nous autres,
c'est la même chose. Avec la quasi-turbine, on est des précurseurs grâce à un physicien qui a étudié la question avec des données physiques, de la physique.
OK.
Et ça fait un moteur absolument révolutionnaire.
Bon, là, en termes d'application, je sais que dans les premières années du moteur, on avait, entre autres, mis sur le marché une tronçonneuse qui avait un moteur quasi-turbine. Là, vous en êtes, vous avez sorti un kart là, récemment, un petit go-kart.
Tout d'abord, petite précision. La tronçonneuse n'a jamais été commercialisée.
Non, mais vous aviez fait un modèle de tronçonneuse,
Oui. Il y en a même deux ou trois modèles.
OK.
Bon. Nous, à l'Association de promotion des usages de la quasi-turbine, on met la quasi-turbine dans des applications.
OK.
Et notre domaine de prédilection, c'est les cartes et l'automobile. OK. Là, actuellement, depuis presque 2 ans, on a un kart qui fonctionne avec une petite quasi-turbine QT75cc et de l'air comprimé. On prend une bouteille, une bonbonne d'air comprimé de plongée, là.
Ça
fait 11 litres seulement, là. Hein? Bon.
Okay.
Puis, on roule avec ça. Et ce kart-là, maintenant, il sert de banc d'essai pour les quasi-turbines QT75cc, voir quel est l'effet des améliorations apportées par l'inventeur.
Et par curiosité, avec une bonbonne de 11 litres d'air comprimé, vous pouvez faire à peu près quelle distance avec votre kart?
Entre 500 et 1000 mètres, à peu près.
OK, donc 1 km dans des bonnes conditions.
C'est ça,
okay.
C'est ça. Mais ça, c'est tout à fait dans les normes. MDI en France qui fait des voitures à air comprimé, sans chauffe avec de l'essence ou un carburant quelconque, arrive pas à faire beaucoup mieux.
OK, donc on est dans les normes pour ce qui concerne l'air comprimé.
Absolument.
Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce moteur-là, le carburant, c'est l'air comprimé. Il n'y a pas d'essence.
C'est-à-dire que c'est pas un carburant, là. C'est la seule source d'énergie.
Voilà, c'est ça.
Tandis que lorsqu'on fonctionne avec un moteur à carburant, une bonne partie de notre énergie vient de l'air qu'on fait brûler avec le carburant.
Ben oui, parce qu'un moteur à explosion, c'est de l'air puis du carburant.
Exactement.
En gros,
la moitié de notre source, on la transporte pas.
OK. Hein?
Mais en plus de ça, l'essence, c'est extrêmement compact comme source d'énergie.
Oui.
C'est pas battable. L'électricité n'y arrivera pas et l'air comprimé n'arrivera pas à égaler l'essence. Ça, c'est sûr et certain. Ou un carburant quelconque. Ça peut être de l'huile végétale,
oh, oui.
Ça peut être de l'huile diesel.
Ce qu'on a comme un carburant alternatif. Même l'éthanol, qui est efficace, n'est jamais efficace comme l'essence encore.
Ben, entre autres.
Oh,
en plus
oui.
de ça, c'est une fausse piste. L'éthanol. Il ne faut pas aller dans cette direction-là, on perd notre temps. Mais enfin, ça, que voulez-vous, les policiers...
Ça, c'est un autre débat, ça. Là, si on parlait, parce que vous parliez bon, d'application, vous
oui.
avez aussi une voiture sur laquelle vous travaillez en ce moment.
Exactement. Là, on a une quasi-turbine 600cc. C'est une grosse machine, là,
ouais.
comparée aux autres, parce qu'elle fait 16 pouces de diamètre par 5 pouces d'épaisseur.
OK.
Mais c'est quand même petit compte tenu des possibilités
oui.
de ce moteur-là.
Oui, 600cc, quand on compare à un V8 de 5 litres, c'est pas très gros, là.
Mais on peut aller chercher, avec de l'air comprimé, quelque chose comme 800 chevaux.
Ah,
c'est
oui.
assez fort pour une voiture de Formule 1, ça.
Oui, oui, oui,
mais ça, c'est avec de l'air comprimé à 3000 tours minute, puis 500 PSI intérieur dans la machine.
OK.
Donc, ça, c'est du volume.
Oui, puis 500 PSI, c'est une joyeuse pression, ça, là.
Pas tellement. Là, vous savez, maintenant, là, on a des injecteurs qui fonctionnent à 2000, 3000
okay.
PSI.
Okay.
Non, ça, c'est maintenant, là, c'est de la petite pression, là.
OK, parfait.
Faut pas se faire d'histoire, là. Aujourd'hui, ça c'est maîtrisé parfaitement. Il n'y a aucun problème. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est que ce même moteur-là, okay, si on le fait fonctionner avec un carburant, il va donner quelque chose comme 100 chevaux.
Okay.
Sans force.
Okay.
Mais sans force, dans un poids actuellement de 150 livres qu'on va réduire graduellement à 100 livres, ça, c'est du 1 pour 1, ça.
Oui, oui, oui. Ce qui est quand même énorme. Là, on est dans des quotas de moto, là.
Ben oui, oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les moteurs, ils sont pas capables de faire ça du 1 pour 1. Ils font peut-être du 2 ou 3 pour 1, là. 3 livres pour un cheval.
À peu près.
Bon. Mais nous autres, on va vraiment baisser ça, là, d'une façon radicale. Et c'est 5 fois plus petit qu'un moteur à piston équivalent.
Exact. Hein?
Donc, là, on a un gain en poids. Et en plus de ça, c'est un moteur qui donne du couple à bas régime. À 100-150 tours, il va commencer à donner du couple suffisant pour faire avancer notre bolide.
OK.
Tandis qu'un moteur à piston, là, à 800-900 tours, c'est là qu'il commence à donner.
Ouais, 800-900, 1500.
C'est ça.
En bas de 1000, il n'y a pas grand-chose.
C'est
bon,
ça.
C'est clair.
C'est ça. Donc, c'est vraiment une révolution fondamentale dans la conception des moteurs.
Puis là, vous avez déjà commencé avec votre voiture à faire différents tests. Là.
Oui. Nous autres, on a une petite voiture qui nous a été passée par Feel Good Cars. C'est un modèle qui,
oui.
dont ils ne se servent plus maintenant.
Feel Good Cars
qui est à Saint-Jérôme,
c'est ça. Oui, oui,
bon.
Oui.
Et ils nous ont passé cette voiture-là sans moteur. Nous autres, c'est parfait. Hein? Pas de moteur. On a ajouté une QT600 dedans.
OK.
4 bouteilles d'air comprimé de plongée. Puis on roule avec ça. Puis là, nous autres, c'est d'améliorer nos systèmes.
Ouais, ouais, ouais.
Et là, ce qu'on prépare avec ça, c'est l'automobile idéale du futur.
OK.
Et c'est pas des blagues, là. Imaginez-vous une voiture, là, qui n'est pas une hybride, mais qui, en ville, fonctionne à air comprimé, qui
ouais.
a une autonomie d'à peu près 20 à 30 km. OK?
Exact.
Sa grande route, elle fonctionne à carburant. Puis là, vous pouvez, en hiver, par exemple, démarrer avec de l'essence. Puis quand vous en avez assez de l'essence, vous passez à l'huile végétale.
OK.
Mais en hiver, l'huile végétale ou le diesel...
Ouais, faut faire attention, ouais, ça gèle, ça cristallise.
Et de la graille.
Ouais, ouais, c'est ça.
Donc, là, avec l'essence et la chaleur de dégagement, on chauffe l'huile.
Ouais.
Et puis là, quand l'huile est à la bonne viscosité, clac, on passe à l'huile, le même moteur qui fait ça, là. Aujourd'hui,
donc,
vous avez deux moteurs. Il vous faut un diesel
ouais,
pour
ouais,
l'huile,
ouais, ouais, ouais,
puis un moteur à...
Puis le quasi-turbine fonctionne,
auto, là,
lui, avec tout ça.
Ouais, ouais. Alors, le même, non. Et en plus de ça, freinage en mode compresseur du moteur. Parce que la quasi-turbine, c'est un moteur qui devient un compresseur, si on veut.
Donc, on peut récupérer une partie de l'énergie qu'on perd et réalimenter son moteur en air comprimé.
Voilà, vous avez tout compris. Donc, quand la voiture est à l'arrêt, le moteur est arrêté aussi.
OK.
OK? Puis là, on redémarre avec l'air comprimé du réservoir.
Ah, ben oui.
Donc, pas besoin de faire tourner le moteur, etc. Non. On arrête tout, puis on repart avec l'air comprimé, puis c'est zéro pollution.
Là, au niveau du développement,
oui.
vous avez un moteur qui fonctionne, qui
oui.
est en essai.
Oui.
Est-ce qu'on vise des dates de commercialisation? Est-ce qu'on a fait des approches auprès de constructeurs? Qu'est-ce qu'on vise comme prochaines étapes
bon.
Chez vous? Là?
Écoutez, il y a beaucoup de choses qui se passent et dont nous sommes très peu au courant. Par exemple, il y a un Américain qui s'appelle Myron D. Stokes, qui a publié un livre blanc, Emotion Report, et qui a organisé une conférence au directeur de la recherche de Ford, Chrysler, General Motors, il y a 2 ans.
OK.
Et la conférence était présidée par un chercheur d'une université autrichienne. Hein? Puis lui, il a dit, Quasi Turbine is the engine to watch. Okay? Donc, ça veut dire, il faut surveiller ça parce qu'il y a vraiment quelque chose là.
Ouais. Qui
s'en vient. Donc, il y a probablement des recherches secrètes qui se font à bien des endroits. Et en France, il y a quelque chose d'encore plus extraordinaire qui s'est produit au début de l'année. Il y a la région Rhône-Alpes et 6 instituts de recherche top niveau qui ont décidé de se mettre ensemble pour créer une culture quasi-turbine.
OK.
Ça, c'est fort, ça. Ça, c'est très fort. Non seulement ils ont réussi à faire ça, mais ils ont impressionné le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui a mis une page sur le site du ministère concernant la quasi-turbine. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se développent à l'extérieur de nous autres. Et je pense que les moyens qui sont mis en œuvre font que dans 2 ou 3 ans, là, il va vraiment y avoir quelque chose qui va sortir.
Donc, on risque d'en entendre parler de plus en plus.
Ah, ça, c'est sûr et certain. Hey, quand vous pensez que aux États-Unis, là, il y a même une université américaine qui a dit à la NASA, pour la mission sur Mars en 2012, c'est la quasi-turbine qu'il vous faut pour faire les foreuses. Okay?
Okay.
Ça, c'est le meilleur moteur. Il y a un Canadien, Harry Valentine, qui a écrit des papiers pour faire des locomotives à quasi-turbine.
Donc, là, si je comprends bien ce que vous me dites, il y a une culture tranquillement qui se développe, qui apprend à connaître la quasi-turbine.
Absolument.
Il reste maintenant à faire une percée commerciale, parce que je pense que ça serait probablement l'étape ultime là, pour mieux faire connaître le produit.
Oui.
Ben, toi, on va surveiller ça de près,
monsieur
Rémillard.
Mais ce qu'on veut, là, monsieur Charette, ce qu'on veut, nous autres, à l'Association de promotion des usages de la quasi-turbine, c'est que le Québec demeure un leader dans ce domaine-là.
Oui, parce
qu'on ne veut pas laisser ça à tout le monde, là, puis que finalement, on se retrouve comme avec le moteur électrique de couture. Gros gens comme ça.
C'est parce qu'on a la mauvaise habitude d'avoir des bonnes idées, de les vendre à rabais à d'autres qui les exploitent et nous les revendent 4 fois le prix.
Oui, mais écoutez, c'est encore mieux que ça avec le moteur roue du docteur Couture. On n'a rien vendu, puis on n'aura rien non plus.
On n'aura rien non plus. Ben, en tout cas, on vous souhaite de garder le cap et de garder rester maître à bord, M. Rémillard. On va se tenir au courant de vos développements. Merci pour votre entrevue.
Et tous ceux qui viennent nous aider, ils sont bienvenus à nous joindre.
Et on peut vous joindre, il y a un site internet qui s'appelle www.pureinvention.com/APUQ.
Exact.
Et là, vous avez toute l'information, il y a des documents de presse, des articles de journaux, tout ce qui a été fait là, et vu à date. On mettra ça sur le site du 98.5.
Ça va nous faire énormément plaisir, M. Charest.
Merci, Rémillard. Merci
à vous.
Bonne journée. Bye-bye. Alors voilà, ça met fin à l'émission.